carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Exceptionnel puisque tout dans cette maison a été conservé intact depuis la mort de Louis Pasteur, que ce soit les papiers peints, le mobilier, les objets et le laboratoire de Louis Pasteur.
Alors justement, entrons dans le vif du sujet, nous venons d'entrer par la porte principale de la maison. Alors où sommes-nous ici, Sylvie Morel, et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette première pièce?
Alors, cette première pièce, c'est le vestibule réception de la maison. C'est dans cette pièce que Pasteur recevait ses visiteurs occasionnels. C'est une pièce qui se choque aujourd'hui au XXIe siècle, car c'est une pièce très, très sombre. Les fenêtres sont munies de vitraux, ce qui n'ajoute pas évidemment à la luminosité de la pièce. La décoration est assez austère. Il est clair que cette décoration ne cadre pas du tout avec la décoration que l'on peut rechercher aujourd'hui dans nos maisons modernes. C'est néanmoins dans cette pièce que Pasteur recevait ses visiteurs occasionnels, les vignerons, qui venaient très souvent intéressés par les nombreux travaux que Pasteur avait pu mener sur les fermentations des vins, et puis aussi des personnes qui cherchaient un appui pour faire une carrière à Paris. Pasteur n'hésitait pas à aider ses concitoyens dans ce genre de recherche.
Alors justement, vous parlez de visites. Est-ce que de grands chimistes ou de grands noms sont venus ici, dans cette maison?
Pour visiter la maison, oui, c'est un lieu de pèlerinage. Effectivement, entre autres, on peut citer un chimiste qu'on aime beaucoup ici dans cette maison, puisqu'il pilote un projet dont on aura peut-être l'occasion de reparler par la suite. Il s'agit d'Hervétis, qui est physico-chimiste à l'INRA, et qui pilote pour nous un projet Pasteur autour de la santé et de l'alimentation.
Alors, revenons dans les murs à l'époque de Louis Pasteur. Vous disiez effectivement que c'était assez sombre, un peu austère. Et ça reste quand même néanmoins cossu. Pasteur avait une vie, de bourgeois.
À la fin de sa vie, oui. Mais il est clair que cette décoration cache les années difficiles. Et après la guerre de 1870, Pasteur a été au bord de la faillite personnelle. Il est clair que dans les premiers temps, la maison dans laquelle Pasteur venait passer ses vacances n'avait rien à voir avec celle qu'on peut découvrir aujourd'hui.
Alors, dans la première pièce, là où nous sommes, on voit, alors je crois que c'est un gong.
C'est un gong qui détonne un petit peu dans cet ensemble classique. Un gong qui a été offert à Louis Pasteur par son neveu, Adrien Loire, qui était aussi son premier assistant au laboratoire. Pasteur l'a placé dans cette pièce pour décorer, et de temps en temps, il semblerait que le neveu l'ait utilisé pour appeler Pasteur quand il faisait la sourde oreille dans son laboratoire.
Pour l'appeler à table.
Ou pour l'appeler plus sûrement à la promenade. Madame Pasteur s'était donné comme mission de sortir Louis Pasteur régulièrement, et à 16h30, c'était l'heure de la promenade. Donc un petit tour soit du côté de Montigny-les-Arthurs, où il avait une vigne, ou soit dans la reculée des planches. Mais celui qui se faisait souvent tirer l'oreille pour arriver à l'heure, c'était Louis Pasteur, le principal intéressé.
À côté de ce premier objet, il y a un globe terrestre. Est-ce que ça traduit une envie de voyage ou un intérêt pour le monde autre que Arbois et la France ?
Pasteur était curieux. Il est clair et il aimait voyager. Il a beaucoup voyagé, surtout en Europe. Hein. Pour les voyages plus lointains, il a réservé ça à ses assistants. Il était amateur d'histoire, de géographie. Et ces objets traduisent cette curiosité à l'égard des voyages et des autres civilisations.
Nous allons peut-être passer à la pièce suivante.
C'est le billard.
Alors, c'est assez curieux parce que moi, l'image que je me fais de Louis Pasteur, c'est quelqu'un qui va être au fond d'une cave ou dans un laboratoire avec une veste blanche, une blouse blanche, mais pas Louis Pasteur qui joue au billard.
Et pourtant, il y jouait. Semble-t-il, il n'était pas très bon joueur. Hein. Enfin, il était surtout pas très bon perdant. Alors, heureusement, son entourage s'ingéniait pour qu'il puisse gagner. Et il aimait partager une partie de billard avec ses assistants, hein, qu'il invitait en vacances parfois dans cette maison, et puis aussi avec sa famille, les membres de sa famille.
Alors partout autour de nous, on voit des portraits, des photos. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Là, je vous salue, Pasteur.
Vous l'avez reconnu. À droite, sa femme, Marie. Marie Laurent était la fille du recteur de l'Académie de Strasbourg. Pasteur l'a rencontrée alors qu'il occupait son premier poste de professeur à Strasbourg.
C'est une femme qui jouera un rôle important dans sa vie de chercheur, de chimiste, ou c'est plutôt quelqu'un d'effacé ?
Elle n'avait pas de compétences scientifiques, hein, on n'est pas dans le même cas que Pierre-Marie Curie. Mais elle s'est intéressée à l'œuvre de son mari, et je crois qu'elle a été très curieuse des découvertes qu'il faisait. Elle lui a sans doute posé énormément de questions. Lui a trouvé en elle sans doute son premier public. C'est sur elle qu'il a pu roder aussi ses arguments. Ça explique peut-être d'ailleurs qu'il était un très bon orateur et très populaire.
La première pièce dans laquelle nous étions à l'instant, vous expliquiez que justement elle faisait tout pour essayer de le faire sortir. Alors est-ce qu'en un terme, on va dire un peu plus actuel, est-ce qu'elle le coachait ? Est-ce qu'elle coachait son mari Louis ?
Je crois qu'elle s'occupait un peu de sa communication, je crois. Particulièrement ici à Arbois. Car à Arbois, il y avait de la concurrence. Hein. Pasteur n'était pas le seul à être décoré, hein, des jeux d'honneur. Donc il fallait veiller à ce qu'il ait la meilleure place lors des cérémonies officielles. Et je crois que cette partie-là l'intéressait beaucoup, effectivement.
La personne qui est en dessous ?
En dessous, c'est un portrait de Camille Valérie Radeau, la petite fille de Louis Pasteur.
Donc, Louis Pasteur Valérie Radeau, qui entrera plus tard comme lui, en fait, comme son grand-père, à l'Académie des sciences, à l'Académie française, à l'Académie de médecine
aussi. Oui, voilà, pas l'Académie des sciences. Oui, c'était donc Louis Pasteur Valérie Radeau était le frère de Camille Valérie Radeau. Et c'était le dernier survivant de la famille. Il est mort en 1970 et il a été enterré dans le vieux cimetière d'Arbois, accompagné évidemment des autres membres de la famille.
Alors là, c'est une gravure, je suppose.
Oui, les gravures sidonniées qui représentent des grands moments historiques. Hein. Pasteur aimait beaucoup l'histoire. Donc il y a dans la maison une dizaine de gravures de ce genre qui évoquent de grands moments d'histoire.
Elles ont appartenu à Louis Pasteur ou c'est vous qui les avez rachetées pour illustrer au mieux le climat scientifique qui régnait dans cette maison ?
Non, il y a eu très peu de modifications hein, finalement dans cette maison, mis à part quelques petites photos dans des cadres sur les cheminées. Mais pour l'essentiel, je dirais 90%, ce qui est autour de vous est d'origine.
Alors derrière vous, il y a un piano. C'est un objet que l'on retrouve tout le temps en fait, dans les maisons bourgeoises. Alors est-ce que Louis Pasteur jouait aussi bien du piano qu'il jouait au billard, on va dire ?
Non, il faut laisser un petit peu pour sa femme aussi. Le piano appartenait à sa femme Marie. Et l'éducation musicale faisait partie hein, de l'éducation des jeunes filles bourgeoises à l'époque.
Alors on va peut-être continuer, on va vous dire une petite anecdote.
Ce tableau que l'on voit qui représente un paysage de Franche-Comté est un tableau qui a été peint par Isambard et qui représente Jean-Baptiste Jupille. Alors, Jean-Baptiste Jupille est très connu en Franche-Comté puisque c'est la seconde personne à avoir été sauvée par le vaccin contre la rage en 1885.
Le vaccin contre la rage que créera en fait Louis Pasteur.
Voilà, que Pasteur a créé donc à l'âge de 63 ans. Alors cet enfant avait connu beaucoup de popularité en 1885. Le premier avait connu aussi beaucoup plus de popularité. Il s'agissait de Joseph Meister, un petit Alsacien de 9 ans, dont le sauvetage a été très symbolique. C'était quasiment un sauvetage patriotique, car en 1885, le petit Joseph Meister n'était plus français. Ils ont perdu l'Alsace et la Lorraine. Et il est clair que ce sauvetage par un savant français a redonné beaucoup d'espoir aux Français qui ne s'en remettaient pas de la perte de l'Alsace et de la Lorraine.
C'est un tableau qui a été commandé ou qui a été offert ?
Non, c'est un tableau qui a été peint à l'initiative d'Isambard. Isambard, craignant quelques erreurs, quelques bévues scientifiques, a pris rendez-vous avec Louis Pasteur et il est venu prendre un repas en compagnie de la famille ici à Arbois. Pasteur, qui avait une formation artistique, a trouvé l'ensemble très bien. Mis à part un petit détail, en toile de fond, il a voulu faire apparaître le mont Poupée, que l'on ne voit pas, que l'air parlait, ou alors c'est une médiatrie, mais qui est important dans l'histoire scientifique de Louis Pasteur, puisque sur ce mont Poupée, il a mené des expériences visant à démontrer que la génération spontanée n'existait pas, que les microbes n'étaient pas des êtres qui pouvaient apparaître comme ça d'une vie.
Peut-être que sur la question de la génération spontanée, on sera amené à en parler dans les pièces à venir. On va peut-être passer à la pièce suivante. Nous sommes dans la salle à manger.
La salle à manger, effectivement. Une pièce, là encore, très sombre. Avec au sol un tapis assez étonnant, puisque c'est un tapis en linoléum.
Alors justement, je pensais que c'était de la mosaïque.
Oui, ça fait illusion, c'est plus court, mais c'est un tapis en linoléum, et un vêtement qui était moderne, mais qui en plus était hygiénique. Et j'imagine que pour Louis Pasteur, ça peut être un argument supplémentaire.
Oui, pour essayer de nettoyer le plus de microbes possible.
Peut-être, oui.
Mais c'était la période de l'invention du linoléum à cette époque-là.
Oui, oui, dans le linoléum, il n'y a pas de matière plastique. Ce ne sont que des produits naturels, toile de jute, poudre de liège, huile de lin qui va donner l'imperméabilité et puis la souplesse au revêtement. Mais après, évidemment, le ton sera donné et les balatomes et autres sols plastiques vont dériver progressivement de cette invention première. Je vous ouvre la porte. Pasteur, comme beaucoup de personnes dans les familles bourgeoises à l'époque, voulait vivre confortablement. Donc il a fait installer ce monde plat, sans doute un outil qu'il avait surtout vu à Paris, et les domestiques pouvaient ainsi faire monter discrètement les plats. Il les réceptionnait dans la petite pièce qui est derrière, on voit la porte qui descend derrière, et après il passait par la porte vitrail pour assurer un service dans les règles de l'art.
Alors justement, vous dites un objet qu'il a certainement vu à Paris, parce qu'à Arbois, c'était une des seules personnes qui pouvait se permettre ce luxe.
Ce luxe, non, mais c'est peut-être cette connaissance. Je ne connais pas, je ne connais pas toutes les maisons arboisiennes, mais je ne connais pas d'autres mondes plats de cette époque-là qui a été installé à Arbois. Donc j'imagine que c'est plutôt quelque chose qu'il a vu à Paris. Ça se faisait beaucoup dans les immeubles solaires.
Ah, effectivement, on voit toute une partie de la vaisselle.
Donc une vaisselle de mariage avec les initiales de Louis Pasteur.
Bien sûr, adorées à leur fin.
Et puis en dessous, vous avez un service avec des assiettes en forme de coquille Saint-Jacques. C'est un service qui vient de la région. Il vient de Nans-sous-Sainte-Anne, un petit village près de Salins-les-Bains, qui possédait une faïencerie qui était très réputée à l'époque. Et puis ici, au-dessus, un plat qui vient de Strasbourg, donc la ville de Madame Pasteur. Ils ont vécu à Strasbourg pendant plusieurs années.
Et là, on retrouve également encore des vitraux, enfin un vitrail pour le coup. Ça traduit quelque chose aussi de particulier, c'était la lumière crue, le gênait.
Non, alors là, je pense que c'est lié à deux éléments. Le premier, c'est qu'il est clair qu'à cette époque-là, il y a un renouveau pour les vitraux. Hein. Si vous visitez la maison de Pierre Loti à Rochefort, vous verrez des vitraux qui sortent même, je crois, d'une église qu'il avait récupérée et qu'il a remis en valeur. Donc il y avait un goût. Mais en même temps, dans une maison bourgeoise, ça a un intérêt parce que ça va pouvoir laisser passer une certaine lumière sans autoriser le vis-à-vis. Or, n'oubliez pas que dans ces maisons bourgeoises, il y a les maîtres de maison, mais il y a aussi les domestiques qui doivent pouvoir vivre dans la même maison, se croiser, mais sans se voir. Donc, ce genre de matériaux permettait des circulations plus discrètes hein, des uns et des autres. On a ici un amusant menu très pastorien, un menu que Pasteur a dégusté avec ses amis, et en particulier avec Max Claudet, qui était faïencier d'art à Salon-les-Bains. Et vraiment un menu très pastorien, puisqu'il y avait des côtelettes sans microbes. Alors, voilà. Et puis, à la fin, on voit qu'il y avait du vin de Salin chauffé et du champagne non chauffé.
C'était un trait d'humour ou c'était vraiment une fixette de Louis Pasteur?
Alors là, c'est comment le menu a été réalisé par Max Claudet. Hein. Donc, c'est humoristique, évidemment. Pasteur ne manquait pas d'humour, mais pour autant, ce n'était pas un bout en train. Hein. Mais quand il fallait vivre, il n'était pas mort. Et ce qui est intéressant dans ce menu, c'est le vin de Salin chauffé. Hein, parce que c'est du vin pasteurisé. Hein. Là, on est en plein hein, dans la pasteurisation. Voilà, la pasteurisation, hein, qui en France n'est peut-être pas la découverte de Louis Pasteur la mieux connue. Hein. Les anglo-saxons l'associent à la pasteurisation, alors que les Français l'associent plutôt au vaccin, à la découverte du vaccin contre la rage. Alors, ces travaux sur la pasteurisation ont été déclenchés par ces travaux sur les fermentations des vins. À la demande de Napoléon III, Pasteur a cherché à comprendre pourquoi les vins n'arrivaient pas à circuler. Parce que Napoléon III avait conclu un contrat de libre-échange avec la reine Victoria qui permettait aux vignerons français d'exporter leur vin en Angleterre sans payer des taxes trop importantes. Le seul problème, c'est que les vins français, en arrivant en Angleterre, n'étaient pas de très bonne qualité, hein, beaucoup tournés au vinaigre. Donc Pasteur s'est intéressé à ce sujet et il a démontré que les fermentations des vins, comme les défauts des vins, étaient liées à l'action de micro-organismes visibles à l'œil nu. Il y avait donc des micro-organismes qu'on pouvait placer dans les utiles, hein, qui faisaient les bonnes fermentations, et puis des micro-organismes parasites que l'on pouvait supprimer en utilisant la chaleur. Il a donc suggéré de faire chauffer le vin à une certaine température pendant quelques minutes, et ce procédé de conservation par chauffage a été breveté sous le nom de pasteurisation.
On utilise plus maintenant, par exemple, le vin.
En France, non. Hein, la pasteurisation nécessitait des investissements dont peu de vignerons étaient capables hein, au XIXe siècle. En plus, les vignerons étaient touchés à la fin du siècle par les maladies outre-Atlantique, hein, donc phylloxéra, mildiou, oïdium. Il est clair qu'il fallait déjà sauver la vigne avant de sauver le vin. Par la suite, on a découvert un autre procédé pour éviter les accidents de conservation. On utilise l'anhydride sulfureux, qui est un dérivé du soufre, qui va avoir une vertu antiseptique et antioxydante. Donc, les vignerons français n'utilisent pas beaucoup, pas souvent, la pasteurisation. Et quand ils l'utilisent, ils ne le disent pas forcément, parce qu'il semblerait que la pasteurisation entrave la maturation du vin, ne permet pas au vin de vieillir correctement.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ici, dans la région, on est dans un pays du fromage. Et quand on parle de pasteurisation avec le Pasteur, ça n'a rien à voir avec le fromage, c'est plutôt le vin. Donc, c'est ce que vous venez nous raconter.
Oui, mais alors, par la suite, Pasteur ne s'est pas arrêté là. Hein. Et il est clair qu'après avoir travaillé sur les fermentations des vins, il a travaillé sur les fermentations des bières, des vinaigres et des produits laitiers. Donc, il y est arrivé. Mais il est clair que la pasteurisation a été mise au point pour les vins, qu'elle a été beaucoup utilisée par les brasseurs. Et aujourd'hui, les bières qu'on achète en grande surface sont pasteurisées. Hein. Quasiment toutes. Il faut vraiment aller en Belgique hein, pour trouver quelques bières non pasteurisées. Et évidemment, après, ça a été utilisé par les professionnels du vin. Alors, il y a vraiment un lien important hein, qui n'est peut-être pas souvent assez mis en valeur entre ces travaux de Pasteur sur les vins et puis l'évolution et l'histoire du vignoble d'Arbois. Les vignerons venaient voir Pasteur, certains vignerons venaient voir Pasteur pour lui demander des conseils sur les vins et sur leur élevage. Quand Pasteur est mort, les vignerons ont demandé les services à d'autres œnologues. Vous savez, la science s'était lancée. Et il y a eu un laboratoire à Arbois qui s'est ouvert et qui recevait les vignerons, leurs échantillons surtout. Et puis ce laboratoire s'est déplacé à Pouligny. Et aujourd'hui, c'est un laboratoire d'analyse départementale. Aujourd'hui, aucun vigneron ne travaillerait sans donner des échantillons à ce laboratoire d'analyse. Et les œnologues, les scientifiques de ce laboratoire conseillent les vignerons sur l'élevage de leur vin. Petit à petit, les vignerons ont réfléchi sur les éléments qui faisaient le goût typique des vins d'Arbois. Si vous goûtez des vins d'Arbois, particulièrement le savagnin ou le vin jaune, ce sont des goûts que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc ils ont réfléchi sur ce qu'ils faisaient, ces caractéristiques. Ils ont listé différents critères, la pente, le sous-sol, etc. Et ils les ont placés sous un label. Et c'est l'appellation d'origine contrôlée. Vous êtes ici dans la première appellation d'origine contrôlée de France. Donc il est clair que même si Pasteur n'est pas directement lié à cet AOC, il y a un lien. Il y a eu comme une idée, comme une réflexion. Oui, il a sans doute, à mon sens, déclenché toute cette réflexion autour du vin qui a été considéré comme un objet d'étude. Alors qu'avant, c'était plutôt considéré comme une boisson, et puis on essayait de la conserver comme on pouvait, et on n'avait pas de véritable réflexion sur le sujet.
Dans ce sens, c'est ce que vous disiez, c'est le premier œnologue, entre guillemets.
C'est le père de l'œnologie, c'est le premier œnologue scientifique. Oui.
Alors, est-ce qu'on passe à une pièce suivante?
Oui. Il faut ressortir.
Ah, alors c'est une des spécificités de la maison de Louis Pasteur, Sylvie Morel.
Alors n'allez pas croire que les Franc-Comtois sont des lieux à accueillir et que nous supportons des températures extrêmes. Non. Non, c'est lié tout simplement à l'héritage de la maison. Quand le père de Louis Pasteur est mort, Pasteur avait encore une sœur, Virginie, qui a conservé la tannerie en sous-sol et l'appartement du rez-de-chaussée, puisque à la place du vestibule réception, il y avait la boutique où elle allait vendre les pots, les cuirs tannés.
Rappelons donc le père de Louis Pasteur était tanneur.
Le père était tanneur, oui, effectivement. Donc Pasteur venait en vacances dans un petit appartement qui était situé au premier étage. Après la mort de sa sœur, il a racheté le rez-de-chaussée et la tannerie à ses neveux, mais n'ayant pas des moyens financiers exceptionnels, il n'a pas voulu modifier les circulations de la maison.
Donc on se dit l'escalier à l'extérieur. Eh bien, nous allons passer à l'extérieur. Alors, on entend le bruit d'une rivière. Quel est le nom de cette rivière?
C'est la Cuisance, une rivière qui naît à 2 km d'ici, dans la reculée des planches.
C'est donc nécessaire pour tout tanneur, avoir une rivière.
Effectivement, sans eau, il ne faut pas imaginer faire le tannage des pots. Alors, ici, le père de Pasteur était bien approvisionné, et encore aujourd'hui, s'il voulait poursuivre son activité, toujours beaucoup d'eau. Parfois, d'ailleurs, elle monte un petit peu trop. Elle réinvestit l'ancienne tannerie qui, du temps de Pasteur, avait été transformée en cuisine. Transformée en maison bourgeoise, donc l'espace était un petit peu réduit, et Pasteur a dû parfois regrouper certaines pièces. Alors ici, on est dans un vestibule réception, encore, plus petit que celui du
Rubénest aussi,
oui, et qui présente d'intéressants papiers peints, puisqu'ici les papiers peints ont été imprimés à la main. Et le goût était très important, les gens appréciaient particulièrement les marbres. Donc l'artisan a voulu évoquer des marbres. Pour renforcer l'aspect marbre, il a eu l'idée de mettre les laits, non pas de façon verticale, mais comme des parements d'un mur de façade, de façon horizontale.
Ça paraît très curieux, je vous dirais quand même très honnêtement aujourd'hui. ça saute aux yeux. Voilà. C'est vrai que c'est un, je pense, un modèle unique, je n'en ai pas vu ailleurs encore. Alors, au mur, vous avez deux dessins en fusain qui ont été réalisés par Louis Pasteur. Ah, Louis Pasteur dessinait aussi. Il a beaucoup dessiné de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans.
C'est assez exceptionnel, hein, mais c'est très ressemblant, je ne sais pas, mais...
Oui, c'est très réaliste, hein, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de minutie, hein, beaucoup de temps, hein, qui a été passé sur ces deux œuvres. Alors à gauche, c'est un buste qu'il a intitulé La Prière. Il a fait ce dessin d'après un buste de Jaillet qu'il avait observé au Louvre. Donc là, c'est une œuvre qu'il a faite à l'âge de 21 ans. À droite, c'est une copie d'un dessin de Giraudet, les funérailles d'Atala, les ruines de Châteaubriand, best-seller, hein, désolé, qu'il a réalisé à l'âge de 14 ans. Donc, quand on voit le format, hein, et quand on voit la finesse des détails, on se dit qu'il y avait vraiment, hein, beaucoup de maturité, hein, chez Pasteur.
Alors, la signature, me dit-on.
Oui, parce que c'est vrai, quand on voit la signature, on ne comprend pas trop, il y a marqué Pasteur Del. Sans doute, cela veut dire Pasteur Delinavit, ce qui veut dire dessiné par Louis Pasteur en latin.
Est-ce que Louis Pasteur était très pieux, puisque là, les deux dessins, hein, c'est une femme qui prie, et là, cette femme avec cette croix.
Pasteur a reçu une éducation catholique. En Franche-Comté, on pouvait bien y échapper, et je crois qu'il y a une croyance intime en un être suprême. Mais en même temps, on a l'impression que ça n'a pas gêné sa démarche scientifique, hein, qu'il n'y a jamais vraiment eu de confusion entre ce qui appartenait au domaine de la croyance personnelle et ce qui appartenait au domaine de la démarche scientifique de la curiosité. Maintenant, quand on circule dans les pièces, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup il y a quelques crucifix, quelques signes intangents de pratique dans les chambres des dames, mais on n'en trouve pas dans sa propre chambre. Mais je pense que oui, Pasteur a vraiment vécu, hein, comment la religion, sur un ton très abstrait. Et je n'ai rien gêné.
Nous sommes donc en 1895, la première photo date de 1848, donc effectivement il s'est passé un peu de temps. Mais alors il faut savoir, je crois que c'était assez commun de prendre des photos de morts.
Il n'y a pas au 19e siècle la même approche de la mort qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos pays développés, j'entends, la mort est plutôt rare. Et les morts nous échappent. Ils sont tout de suite placés, enfin, soit ils restent à l'hôpital ou ils filent au funérarium, mais on les a très rarement dans les maisons. Au 19e siècle, c'est loin d'être le cas. La mortalité est énorme. Pasteur a enterré ses parents, il a enterré tous ses frères et sœurs, il a enterré trois de ses enfants et l'un de ses petits-enfants. Donc il y a une vraie proximité à la mort. Et il est clair que quand une personne meurt, il n'y a pas la même appréhension, hein, par rapport à la représentation. Donc là, on voit trois photos, hein, qui ont été prises donc, en 1895. Donc là, Pasteur est mort à Garches, hein, dans l'une des propriétés de l'Institut Pasteur. Et la dernière photo, on le voit en compagnie des deux petits-enfants qui lui sont restés, donc Camille et Louis, qui va devenir Louis Pasteur Valéry Radon. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu choquant aujourd'hui, hein, mais je crois que c'est important aussi, hein, de rappeler que, bon, on vit dans une société confortable. Je crois que l'histoire de Pasteur, l'histoire de ses découvertes, rappelle aussi ça.
Alors là, nous sommes dans un petit couloir. Alors des jouets, à cette époque-là, c'était quand même c'était une richesse. C'était les jouets de qui, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on voit?
Alors ce sont les jouets des petits-enfants qui sont exposés là dans une vitrine. Il y a eu au 19e siècle un rapprochement des parents avec leurs enfants et pour Pasteur, des grands-parents avec les petits-enfants. Et sans doute beaucoup d'intérêt, hein, pour la partie éducative qu'il fallait donner aux enfants.
Il était très proche justement de ses petits-enfants ou au contraire c'était quelqu'un d'un peu froid, rigide? Quel était son caractère à lui, Pasteur?
Gustave a sans doute été beaucoup plus proche de ses petits-enfants que de ses propres enfants. Certaines de ses filles sont même mortes par ici à Arbois en son absence. Certaines d'entre elles ont vécu en pension à Arbois alors que lui vivait à Paris. Donc il n'y avait pas le même lien aussi intime entre les parents et les enfants. Mais avec ses petits-enfants, Pasteur a été beaucoup plus proche et beaucoup plus chaleureux sans doute. Donc c'est arrivé à mon endroit. Alors on voit différents types de jouets. Pour les garçons, les soldats blancs, hein, c'est ce qui marque. N'oubliez pas qu'après la défaite de 70, hein, le grand projet, c'est d'aller reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Peut-être que c'est une façon détournée aussi de rappeler cet objectif. Pour les jeunes filles, eh bien, on retrouve évidemment des choses, tout ce qui est activité culinaire, parce qu'on a
une petite cuisine. En fond, c'est magnifique. Hein. Un petit landau.
Là, les landaux, les ombrelles. Alors la poupée est une religieuse. Là, c'est déjà peut-être un petit peu plus difficile, comme ça. Et puis évidemment, beaucoup d'autres sociétés. Et dans la pièce d'auparavant, il y a un jeu scientifique. Hein, chez Pasteur, ça s'impose, un praxinoscope.
Hein. Qu'est-ce que le praxinoscope?
Le praxinoscope, c'est en quelque sorte l'ancêtre du cinéma. Il va donner l'illusion du mouvement en utilisant la persistance rétinienne. Donc on met un bandeau avec des images où on voit un mouvement décomposé, et en actionnant le praxinoscope, on va pouvoir voir défiler toutes ces images à une vitesse importante, et ça va donner l'illusion. En enfilade dans les maisons bourgeoises, l'antichambre, la chambre et le boudoir. Ici, il n'y avait pas la place de tout mettre, donc la chambre et le boudoir sont réunis et la chambre va être placée en alcôve. Et l'alcôve pourra être fermée par des portes de placard. Beaucoup de visiteurs pensent que l'alcôve permettait d'avoir chaud la nuit, hein. Ce qui n'est pas le but premier de l'alcôve dans la maison bourgeoise. En fait, l'alcôve permet de préserver l'intimité le jour. Dans le boudoir, Madame Pasteur va recevoir ses amis dans l'été, par exemple. Elle ne souhaite pas que ses invités puissent voir cet endroit intime. Il y a vraiment une recherche de l'intimité dans les maisons bourgeoises de l'époque. Donc elle va pouvoir masquer sa chambre derrière les portes de l'alcôve. Et puis de la même façon, elle refermera la porte du cabinet de toilette et ses invités ne pourront pas voir cet espace utilitaire.
Le cabinet de toilette semble bien mystérieux, lui aussi, au niveau des objets un peu particuliers. On peut vous suivre. Alors nous passons le petit cordon de sécurité. Alors nous retrouvons le fameux linoléum.
Oui, alors cette fois c'est un linoléum qui n'a plus la forme du tapis. Il semblerait que les industriels, après avoir testé des formes classiques, des tapis, se soient écartés des formes traditionnelles pour créer des linoléums qui cette fois pouvaient se dérouler sur l'ensemble de la pièce. Alors le cabinet de toilette, comme la chambre de Camille, comme la chambre de la petite fille, est placé en encorbellement au-dessus de la rivière. Et si on se penche par la fenêtre, on peut voir les truites qui sont dans la cuisine.
Donc là, il faut faire attention, si jamais la maison tourne éboulement, nous tombons en premier.
Oui,
le foyer de restauration, c'est pour ça, je me permets de dire aux auditeurs que nous vivons un risque.
Ça va, on s'en sortira, je crois.
Madame Pasteur, commandait, faisait des commandes au bon marché à Paris.
Oui, comme toutes les dames de la bonne société, le bon marché, c'était le grand magasin de nouveautés. C'est d'ailleurs ce magasin qui avait inspiré Émile Zola pour la rédaction du Bonheur des Dames. Louis Pasteur aussi, a rencontré Madame Boussicot, la fondatrice du bon marché, et l'a rencontrée à l'occasion de la souscription qu'il a lancée pour fonder l'Institut Pasteur. Et Madame Boussicot lui a fait une importante donation qui a fait monter les larmes aux yeux des scientifiques.
Qu'est-ce que vous avez dans les mains, Sylvie Morel?
Alors j'ai la boîte de poudre de Madame Pasteur, avec encore le petit tampon donc cette poudre blanche qui permettait à Madame Pasteur de retrouver son teint clair.
Donc, la poudre de riz.
Voilà, qui permettait donc aux dames de garder un teint très clair, car seules les femmes qui travaillaient étaient bronzées. Le bronzage était le signe de la pauvreté. couverte hein, du papier peint de la pièce, pour un peu dissimuler, qui va communiquer donc avec la chambre de Louis Pasteur.
Double porte.
Alors notez bien, c'est le signe des temps, hein, que Louis Pasteur disposait d'un loquet hein, qui lui permettait de se barricader dans sa chambre, hein, lorsque Madame Pasteur ne disposait pas du même outil. Hein, tout côté.
La remarque est bien notée. Quels sont les éléments qui pourraient susciter notre curiosité dans cette chambre ici, si vous m'aurez.
Alors ici, on voit que le lit de Louis Pasteur est en alcôve, mais que l'alcôve est équipée de rideaux. Hein, donc on pouvait masquer le lit derrière des rideaux. Alors ce qui est assez amusant ici, c'est qu'on peut voir comment les domestiques faisaient pour faire le lit. Car placer un lit en alcôve, ça paraît pratique ou esthétique, hein, mais pour les domestiques, c'était un véritable casse-tête chinois. Comment faire le lit? Comment faire le lit sans faire de contorsion? Alors ici, vous allez voir un petit peu l'astuce. Alors le lit est monté sur des roulettes. Et les roulettes sont placées sur des rails escamotables.
C'est une invention de Louis Pasteur?
Nullement. Peut-être vu à Paris. Donc on pouvait sortir le lit hors du recoin. Et les domestiques passaient par le cabinet de toilette.
Une toute petite porte,
et elle pouvait ainsi très facilement faire le lit.
C'est une ingéniosité assez incroyable. Enfin, il fallait vraiment avoir ces deux problèmes pour faire son lit, pour y penser aussi.
Alors sur le côté, hein, on voit le petit cabinet de toilette, avec des bouteilles d'eau de Cologne, du savon rangé galet. Et puis on voit aussi un petit flacon d'eau phéniquée. Un désinfectant hein, que Pasteur utilisait. N'oubliez pas que Pasteur, c'est le père de l'hygiène. Et que sur le sujet, il était très sensible. Oui, et en fait, il a démontré que l'hygiène était bonne pour la santé parce qu'elle permettait de limiter la circulation des microbes responsables des infections. Le Pasteur a isolé le staphylocoque, il a travaillé sur le streptocoque, le pneumocoque, le vibrio septique. Et il a démontré que ces microbes qui étaient responsables des infections circulaient en très grand nombre sur les mains des médecins et sur leurs outils. Il a donc demandé solennellement aux médecins réunis à l'Académie de médecine d'avoir des règles d'hygiène strictes. Mais le discours qu'il a réalisé n'a pas rencontré le succès escompté. Hein. Pasteur a rencontré beaucoup de résistance hein, de la part du corps médical. Et la polémique a duré quelques années. Les choses ont commencé à s'arranger après la découverte du vaccin contre la rage. Il faut dire que là aussi, il était devenu beaucoup plus populaire et médiatique. Et que les médecins, à partir de ce moment-là, ont modifié les pratiques. Et le matériel va, dans la foulée, suivre. Hein. On va inventer les gants en caoutchouc stérilisable. Les autoclaves. L'autoclave a été inventé par Chamberlain, l'un des assistants de Pasteur.
L'autoclave, vous pouvez rappeler en une minute ce que c'est?
Un outil utilisé dans les hôpitaux pour stériliser les outils. Ouais.
En tout cas, Louis Pasteur sera, comment dire, lui-même porte-parole de ce qu'il disait, c'est-à-dire prôner l'hygiène, puisqu'il vivra jusqu'à 73 ans, à une époque où, comme vous le disiez quelques minutes auparavant, la moyenne d'âge était de 60 ans pour les hommes, à peu près.
Effectivement, mais quel crève-cœur en même temps. Puisque alors qu'il est en train de démontrer, de répéter inlassablement ses démonstrations concernant l'importance de l'hygiène, eh bien sa petite fille Marie-Madeleine va naître et va mourir d'une fièvre puerpérale, transmise évidemment hein, par la sage-femme ou le médecin qui avait accouché donc, sa fille. Vous voyez, nul n'était à l'abri hein, des infections. Même l'entourage de Louis Pasteur a été touché par ce fléau. Et vraiment, il a fallu attendre au début du XXe siècle pour que cette mortalité infantile, cette mortalité féminine, hein, suite aux accouchements, ouais, régresse de toute façon.
Dans la maison du voisin, enfin qui est une ancienne, mais nous sommes voilà, dans la maison d'à côté.
Exactement. Alors, il a abattu toutes les cloisons intermédiaires pour ne réaliser qu'une seule pièce, mais une pièce très grande, très lumineuse. Il a fait en sorte que les ouvertures soient maximum. N'oubliez pas que lui doit faire des observations au microscope et que le rendement des microscopes de l'époque n'est pas énorme et qu'il faut s'entourer de toutes les précautions possibles. Voilà, donc une pièce très lumineuse qui tranche complètement avec l'ambiance de la maison, puisqu'ici il n'y a plus de papier peint. Nous sommes dans un badigeon très très clair avec une organisation quasi spartiate. On n'est pas du tout dans la surcharge comme on pouvait l'être dans les pièces auparavant.
Est-ce que là il y a fait des découvertes importantes ici dans cette pièce?
Alors ici il a travaillé surtout sur les fermentations des vins. Mais la découverte de la pasteurisation ne s'est pas faite dans ce laboratoire, puisque ses travaux sur la pasteurisation ont été réalisés alors qu'il avait une quarantaine d'années. À cette époque-là, il n'avait évidemment pas les moyens financiers d'avoir un laboratoire. Et ses travaux, ses découvertes ont été réalisées en partie en face, dans un laboratoire de fortune que lui avait aménagé son ami et voisin Jules Vercel, dans sa propre maison. Pasteur a eu aussi un laboratoire de fortune dans un café désaffecté, un petit peu plus loin dans le bas de la ville. Et ce laboratoire, c'est un laboratoire de fin de vie, c'est peut-être le rêve du chimiste qui se réalise. Il n'a pas découvert le vaccin contre la rage.
Alors voilà, parce que justement, en fait, les vaccins, c'est la dernière partie de sa vie. Quand il va travailler sur le vaccin, ça sera encore à Paris ou peut-être à Strasbourg?
Non, on est déjà à Paris. La découverte du vaccin contre la rage, c'est 1885. Donc tout ça se réalisera dans les laboratoires de la rue d'Ulm, que Pasteur a tâché d'agrandir et d'améliorer.
Et alors ici, est-ce qu'il va travailler avec des assistants ou est-ce qu'il va être tout seul dans cette pièce? Est-ce que les gens vont se précipiter pour venir voir? Est-ce qu'il va laisser entrer le public ou au contraire? Est-ce qu'il va être comme un ours dans sa caverne?
Un Pasteur est un homme qui sait communiquer, mais en même temps, un laboratoire de microbiologie ne peut pas être investi par tout un public. Car si on veut mener des expériences et avoir des résultats peu probants, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de contamination, tout simplement. Alors, il n'y travaillait pas seul, puisque je vous l'ai dit, à un petit âge de 46 ans, il est paralysé du côté gauche. Donc, pour manipuler, il lui faut absolument des assistants. Et parmi les assistants, le plus dévoué, le plus fidèle, celui sur lequel il avait le plus d'ascendance, c'était indubitablement son neveu, Adrien Loire, qui souhaitait se destiner à la médecine, mais qui n'a jamais pu réaliser ce vœu avant la mort de son neveu. Pasteur, et c'est là tout l'art aussi, je trouve, de ce scientifique, c'est qu'il ne fera finalement pénétrer très peu de personnes dans son laboratoire.
Sa femme avait le droit d'y entrer?
Oui, mais à dose modérée. Pasteur ne supportait pas que des médecins, par exemple des médecins étrangers à son équipe, pénètrent dans son laboratoire, parce que pour lui, un médecin était un rousseur de microbes.
Oui.
Et il semblerait qu'à chaque fois qu'un médecin ait pu forcer en quelque sorte la porte de l'un de ses laboratoires, Pasteur ait fusillé ses assistants. Alors là, les assistants savaient ce que ça voulait dire. Ils préparaient les bouteilles d'eau phéniquée et après le départ du médecin, on désinfectait tout ce que le médecin avait touché.
C'est assez original de désinfecter une pièce après le passage d'un médecin.
Il est clair qu'après tous les travaux sur l'hygiène qu'il avait pu produire, il pouvait avoir un doute sur la propreté et la stérilité des mains des médecins de l'époque.
Alors, nous sommes dans une grande pièce avec beaucoup d'instruments. S'il fallait en choisir trois ou quatre qui se distingueraient par leur originalité ou par leur rareté, ou tout simplement qui sont représentatifs du travail des pasteurs, lesquels ce serait?
Échapper, c'est le microscope, c'est évident. Donc, les premiers microscopes sont apparus au XVIIe siècle, du XVIIe. C'est un objet qui est surtout utilisé par les amateurs de curiosité, qui observent des choses, qui bougent sur les lames. On appelle ça des animalcules. On pense que ce sont des animaux en plus petit et en plus parfait. Leur origine n'est pas très claire. On pense que ce sont des générations spontanées, c'est-à-dire des êtres capables d'apparaître n'importe où, n'importe comment, même en l'absence de leur géniteur. Il n'y a pas de véritable intérêt scientifique. Quelques scientifiques ont remis en doute, ont émis quelques doutes sur la génération spontanée, mais ils étaient très isolés et n'ont pas atteint leur objectif. Donc le microscope a été utilisé de façon systématique par Louis Pasteur et ça lui a permis, entre autres, de remettre en question cette théorie de la génération spontanée.
Il parlait de microbes.
Voilà, et par les microbes et de micro-organismes. Il a démontré donc que ces êtres microscopiques étaient des êtres vivants à part entière, qui avaient les mêmes besoins que nous, c'est-à-dire des besoins nutritifs et puis des besoins environnementaux. Il a surtout démontré que leur origine n'était pas miraculeuse, n'était pas mystérieuse. C'était des êtres vivants. S'ils étaient présents sur un aliment, c'est parce qu'il y avait eu contamination à notre insu. Et qu'ils se reproduisaient selon les lois de la production naturelle.
Qui n'étaient même pas apparus spontanément, par hasard, sur un objet ou sur un autre.
Non, voilà, c'était des êtres qui appartenaient et qui faisaient partie à part entière du règne du vivant.
Donc, c'était pour le premier objet.
Alors, le second, c'est l'étuve. Hein. On voit que l'angle de la pièce est occupé par une autre petite pièce. C'est une pièce qui est complètement isolée thermiquement. Hein. On voit vraiment des parois épaisses. On s'aperçoit aussi qu'il y a un oculus au-dessus en double vitrage. Et puis, à l'intérieur, donc une chaudière qui fonctionnait au gaz, qui chauffait donc un circuit d'eau fermé et qui permettait d'élever la température à l'intérieur de cette pièce close.
C'est un sauna.
On appelle ça un four à incubation. Mais ça a évidemment les mêmes vertus qu'un sauna. Mis à part que dans ce four à incubation, sur les étagères, Pasteur plaçait ses cultures microbiennes et la chaleur diffusée par la chaudière accélérait la multiplication des germes qu'il voulait observer. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait trois catégories de micro-organismes et qu'il y a des températures idéales où les micro-organismes se reproduisent beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle la prolifération microbienne.
Donc là, lui qui était à fond sur l'hygiène, cultivait ces petits microbes dans ce four à incubation.
Effectivement, oui. Alors, je vous l'ai dit, ça c'est l'environnement. Il faut aussi parler nourriture.
Alors là, vous ouvrez une petite vitrine avec des objets bien particuliers. Il y a des mini-bonbonnes. Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des ballons qui contiennent des bouillons de culture. Ce qu'on appelle le bouillon de culture. Parce qu'on va cultiver des microbes comme on cultive des végétaux. Et puis, bouillon fait référence au produit qui est à l'intérieur. Parce que si on regarde sur les étiquettes, on s'aperçoit que c'est du bouillon de poule, du bouillon de veau. Certains ont été fabriqués en 1883. Ils ont été stérilisés et enfermés dans ces flacons qui sont hermétiquement clos. Donc on peut voir, le bouillon n'a pas bougé, il n'y a pas de pourriture qui apparaît à la surface, normal, puisqu'il n'y a pas eu de contamination. En absence de contamination, les microbes n'ont pas pu investir le bouillon, ils n'ont pas pu donc le détériorer. Donc Pasteur a multiplié par exemple une maladie qui s'appelle le choléra des poules sur les bouillons de poules. Et il a multiplié le charbon des moutons sur des bouillons de veau. Donc ça, il sélectionnait le microbe au microscope. Ensuite, il ensemençait les bouillons et il plaçait ces bouillons dans le four à incubation et la chaleur faisait le reste, hein, accélérait la multiplication des germes. Et ensuite, Pasteur pouvait faire certaines expériences sur les germes qu'il avait ainsi multipliés en laboratoire. Chose hein, finalement dans ce laboratoire, c'est bien difficile finalement de sélectionner parce qu'il faudrait parler aussi des produits chimiques, il faudrait parler de l'eau sur l'évier, c'est une vraie révolution. Il n'y avait pas d'eau dans les cabinets de toilettes que nous avons vus jusqu'alors. Hein. Pour le laboratoire, Pasteur doit disposer d'eau courante. Il a fait beaucoup d'efforts pour être relié au réseau d'eau publique d'Arbois. La municipalité a fini par accéder à sa demande, mais malheureusement, quand Pasteur a eu enfin l'eau au robinet dans sa cour, il a bien compris que la pression serait nettement insuffisante pour que l'eau puisse monter toute seule au premier étage. Alors qu'à cela ne tienne, il a fait installer une pompe à bras, que vous verrez dans la cour tout à l'heure en redescendant, et grâce à cette pompe à bras, on pouvait remonter l'eau jusque dans le caisson, et l'eau s'écoulait ensuite par gravité au robinet. Voilà, c'était la seule solution pour avoir l'eau à l'étage. Et concernant l'hygiène des mains de ses assistants, Pasteur a été vraiment très vigilant. voit un échantillon du choléra des poules. Pasteur, après avoir travaillé sur les fermentations, hein, des pains, des bières, des poules laitières, a compris qu'il a eu l'intuition que finalement, si les microbes étaient responsables des fermentations, alors sans doute était-il aussi responsable d'autres phénomènes comme les maladies contagieuses. Donc il a confirmé cette intuition, hein, il a démontré que les microbes étaient responsables du choléra des poules, du charbon des moutons, du rejet du porc, de la rage, et il a donc trouvé des vaccins contre toutes ces maladies. Donc ici vous avez le vaccin contre le choléra des poules.
C'est en fait d'inoculer une partie de ce microbe à la personne.
Alors Pasteur est parti hein, des travaux d'Edward Jenner, ce médecin anglais qui avait découvert au XVIIIe siècle le vaccin contre la variole. En fait, Edward Jenner s'était aperçu que les femmes qui traillaient les vaches en Angleterre n'attrapaient jamais la variole, mais qu'au contact du pli des vaches, elles attrapaient une maladie bénigne qui s'appelait la vaccine. Alors l'idée de Jenner, ça avait été de prélever du liquide hein, dans les boutons des dames, les boutons de vaccine. Il avait injecté donc cette maladie à des personnes qui n'avaient pas la variole. Et ensuite, il avait inoculé la variole à ces mêmes personnes. Et ces personnes avaient résisté à leur tour à la variole.
Une pneumo-infection.
En quelque sorte, oui. Seulement, l'explication n'avait pas été vraiment donnée. Jenner, qui était un homme méthodique, hein, avait couché sur son carnet de laboratoire ses remarques, mais sans comprendre. Et jamais il n'avait pu reproduire ce que la nature lui avait offert, n'ayant pas compris quel était le rôle des microbes dans l'aventure. Quand Pasteur donc, s'intéresse aux maladies contagieuses, il relit les comptes rendus scientifiques d'Edward Jenner, mais lui a déjà cultivé des microbes en laboratoire, et il sait deux choses importantes. La première, c'est que les microbes peuvent être responsables de grands phénomènes, et la seconde information, c'est que les microbes sont sensibles à leur environnement. Placés dans des conditions favorables, ils deviennent plus actifs, plus forts, on pourrait dire plus virulents. Placés dans des conditions défavorables, ils s'affaiblissent, ils s'atténuent. Alors Pasteur va émettre l'hypothèse que finalement, la variole et la vaccine sont provoquées par deux microbes appartenant à la même famille. Mis à part que dans la variole, c'est un microbe virulent, alors que dans la vaccine, c'est un microbe affaibli. Il suggère finalement que l'injection d'un microbe affaibli protège contre l'attaque du microbe plus virulent, ce qui est le principe même du vaccin. Alors à partir de ce moment-là, Pasteur va tenter de confirmer son hypothèse, donc il va tenter d'isoler les microbes responsables des maladies grâce à son microscope, il essaiera de les cultiver en laboratoire et il essaiera de les affaiblir. Et c'est ce microbe affaibli qu'il va injecter dans le corps des animaux à protéger, et c'est Louis Pasteur qui va baptiser ce microbe affaibli du nom de vaccin. Et dans le terme de vaccin, on entend bien le mot vaccine. Hein. C'est un clin d'œil et une façon de se souvenir hein, des travaux importants d'Edward Jenner.
Voilà. Et donc, c'est ce qu'il reproduira plus tard pour le vaccin contre la rage.
Complètement. C'est la même méthode, avec un petit peu plus de difficultés, puisque jusqu'alors, Pasteur avait travaillé sur des bactéries. Avec la rage, le Pasteur a affaire à un virus. Donc techniquement, il va se heurter aux limites de son microscope, puisqu'il ne peut pas voir le virus grâce à son microscope. Le virus de la rage sera isolé en 1962 avec un microscope électronique. Et puis, il aura des difficultés aussi pour cultiver le virus, car nous le savons aujourd'hui, mais Pasteur ne le savait pas encore, les virus sont des parasites qui ne peuvent pas tirer tout seuls l'énergie de leur environnement, et pour se reproduire, ils sont obligés de parasiter des cellules vivantes. Pasteur finira par le comprendre, grâce en particulier à des travaux qui avaient été menés par d'autres, en particulier par un vétérinaire qui s'appelait Galtier. Et il va donc cultiver le virus sur des lapins vivants. Pasteur avait choisi le lapin, car le lapin a une forme paralysante de la rage.
Effectivement, pour le coup, ça se voyait visuellement.
Ça se voyait, et c'était moins dangereux pour les expérimentateurs. Pasteur avait déjà eu des déboires. Hein. Il a travaillé aussi sur le choléra de l'être humain, et il a perdu l'un de ses assistants qui est mort victime du choléra.
Et lui, non.
Lui, non.
Ah, les échantillons de rage.
C'est pas très sonore, mais...
Ça ne veut pas très rageur, hein.
C'est lesquels? Ces tubes à essai contiennent de la moelle épinière de lapin enragé. C'est le vaccin contre la rage. Alors, c'est un vaccin qui est assez surprenant et qui, encore aujourd'hui, heurte un petit peu le raisonnement, car c'est vraiment un vaccin qui agit de façon préventive, mais c'est un vaccin qui peut être administré après contamination, après morsure. Le petit Joseph Meister, le petit Jean-Baptiste Jupille, ils ont été vaccinés après avoir été mordus par des chiens enragés. Alors, c'est lié à la nature du micro-organisme qui est en œuvre. Les virus sont très sensibles à leur environnement. Suivant l'environnement dans lequel ils vont circuler, ils vont être plus ou moins actifs, plus ou moins rapides. Quand Pasteur va cultiver le microbe sur des lapins, il va s'apercevoir que la période d'incubation devient de plus en plus courte au fur et à mesure qu'il fait passer la maladie de lapin en lapin. Normalement, en moyenne, quand un homme est mordu par un chien enragé, la période d'incubation est d'environ de 30 jours. Donc la période de latence entre le moment de la contamination et le moment de déclaration des symptômes. Au bout de plusieurs passages, la période d'incubation avait véritablement diminué sur le lapin, puisqu'elle était de l'ordre de quelques jours, voire même que d'un seul jour. Donc le virus sur le lapin agissait beaucoup plus vite que le virus qui circulait normalement dans la nature. En affaiblissant ce virus, Pasteur a constitué ce qu'il a appelé le vaccin contre la rage. Et du coup, ce vaccin agissait particulièrement vite, si vite qu'on pouvait l'injecter après morsure. Alors, pour le faux coup, il ne faut quand même pas attendre trop longtemps. On n'avait pas un mois pour réagir, mais du moins, peut-être une bonne quinzaine de jours. Le fait que ce vaccin puisse être injecté après morsure a fait beaucoup aussi pour la popularité de Louis Pasteur, car les gens qui étaient mordus par des chiens enragés se considéraient comme perdus. Alors perdu pour perdu, eh bien ils préféraient faire la dernière tentative, la tentative de la dernière chance. Et ceux qui étaient mordus n'hésitaient pas à prendre le train pour monter à Paris et rejoindre donc son laboratoire de l'école normale supérieure qu'on voit sur cette photo. Et ça provoquait une véritable file d'attente le matin devant son laboratoire. Voilà, c'était les Russes de Smolensk.
Oui, c'était vraiment européen pour le coup, c'était une vague européenne.
Voire mondiale. Il y a même eu des petites Américaines qui ont été sauvées par le vaccin qui s'était rendu à Paris. Là, ce sont des Russes qui avaient traversé l'Europe pour venir être sauvés. Tous n'ont pas été sauvés, car certains avaient été pris trop tard, mais certains sont repartis. On voit d'ailleurs en dessous la séance de vaccination. On s'aperçoit d'ailleurs que Pasteur ne fait aucun geste médical. Il n'est pas médecin, il est biochimiste. Et dans son équipe, il a très soin, évidemment, de s'entourer de médecins qui vont pratiquer.
Même si les médecins étaient porteurs de beaucoup de microbes.
Cela a été contrôlé dans la station.
Notre visite de la maison de Louis Pasteur à Arbois dans le Jura se termine ici. Merci à Sylvie Morel, coordinatrice du musée, de nous avoir fait découvrir l'intimité du chercheur. Vous souhaitez certainement en savoir plus sur cette fondation appartenant à l'Académie des sciences. Vous pouvez vous connecter au www.academie-sciences.fr/pasteur.htm. Surtout, n'hésitez pas à vous déplacer jusqu'à Arbois pour pousser la porte du musée. Les conservatrices vous accueilleront avec plaisir d'avril à octobre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions sur Canal Académie, bien sûr.